Bien, je pense terminer l'introduction du cours proprement dit, qui dure donc de maintenant à 11h30, puisqu'à 11h30, il y a un changement de paysage, nous avons un séminaire avec un invité. Donc je pense terminer l'introduction du cours, peut-être aujourd'hui, en tout cas certainement au début de la séance prochaine. Je signale dès maintenant que cette séance prochaine, samedi 16 décembre, sera la dernière du trimestre, puisqu'ensuite il y a les vacances de Noël, et que le cours reprendra, le cours et le séminaire, reprendront le samedi 6 janvier. Je voudrais aussi me permettre de dire, j'en éprouve le besoin, que dans mon esprit, j'espère dans votre esprit aussi, un cours, même s'il ne répond pas à la définition canonique du cours, un cours n'est pas une performance. Et il ne faut pas, autant que possible, y venir comme un spectacle qui enchante ou qui déçoit, ou même, parce qu'il y a au fond des pervers, qui enchante parce qu'il déçoit. Je veux dire qu'il y a ici, bien ou mal accompli, un dessein, deux S-E-I-N, que j'essaye de tenir, et un dessein, deux S-I-N, que j'essaye de remplir semaine après semaine, et peut-être année après année. Et il ne faut pas perdre cela de vue, si vous le voulez bien. Donc, au cours des deux premières séances, c'est-à-dire samedi dernier et aujourd'hui, j'essaye de rendre compte de l'origine personnelle et même fantasmatique du cours, tout simplement parce que c'était dans le programme d'enseignement de la chaire et dans la leçon inaugurale. J'ai expliqué la dernière fois qu'à un certain moment d'une vie, moment que j'ai appelé mythiquement le milieu du chemin, sous l'effet de certaines circonstances, de certaines dévastations, je dirais, le vouloir écrire, pour lequel nous avons ce mot latin unique, scripturire, pouvait s'imposer comme le recours, comme la pratique, dont la force fantasmatique permettait peut-être de repartir à neuf vers une vita nuova. Et je continue. J'ai en effet longtemps cru, je l'ai même écrit dans un article, qu'il y avait, disons, un vouloir écrire en soi, et que écrire était en quelque sorte un verbe, dans certains cas bien sûr, un verbe intransitif, sans complément d'objet. Qu'est-ce que vous faites? J'écris. Bien sûr, au bout d'un certain temps, vous demandez qu'est-ce que vous écrivez maintenant. Mais disons qu'il y a un emploi normal de écrire comme verbe intransitif. Eh bien, maintenant, j'en suis moins sûr. Peut-être que vouloir écrire, ça veut toujours dire vouloir écrire quelque chose. Donc, que vouloir écrire a toujours un objet fantasmatique. Et par conséquent, il y aurait à ce moment-là des fantasmes d'écriture. Car il faut prendre à ce moment-là d'ailleurs l'expression fantasme d'écriture dans sa force désirante. C'est-à-dire comprendre le fantasme du vouloir écrire quelque chose à égalité avec les fantasmes dits sexuels. Un fantasme sexuel, je me réfère toujours à la définition du Laplanche et Pontalis, un fantasme sexuel, c'est un scénario avec un sujet qui est toujours moi, qui est je, et un objet typique. Une partie du corps, une pratique, une situation. La conjonction du sujet et de l'objet fantasmé produisant un plaisir, puisqu'il y a un plaisir du fantasme. Donc le fantasme d'écriture, ce serait à ce moment-là un scénario où je me verrais, où je m'imaginerais, où je me verrais, moi, bon, moi, c'est-à-dire chacun de vous et moi, produisant un objet littéraire. c'est-à-dire l'écrivant. Et bien entendu, ici, comme toujours, le fantasme gomme les difficultés, les fiascos de réalisation. Donc, moi écrivant quelque chose, ou plutôt sur le point de le terminer. Alors, quel objet peut être fantasmé? Évidemment, cela dépend du sujet, et cela dépend de 1000 données individuelles, et je dirais que selon une typologie très grossière, acceptons-la. Mais peut-être un poème, peut-être une pièce de théâtre, peut-être un roman, mais je dis bien, n'est-ce pas, fantasme de poème, fantasme de roman. D'ailleurs, il est très possible que le fantasme lui-même reste grossier et soumis à une typologie très grossière, qui serait dans ce cas-là les genres littéraires. On pourrait, au fond, peut-être, ce serait une nouvelle définition du genre littéraire, une notion sur laquelle on a beaucoup réfléchi ces derniers temps et théorisé d'une façon excellente, notamment Todorov et la revue poétique, n'est-ce pas? Mais on pourrait peut-être ajouter une définition un peu paradoxale et un peu farfelue. Le genre littéraire, ce serait ce qui est fantasmé, finalement, quand on veut écrire. Donc, comme le fantasme sexuel lui-même est codé, le fantasme d'écrire serait lui aussi codé. En fait, c'est un problème immense, petite digression, le code, la codification des fantasmes, et notamment des fantasmes sexuels, qui semblent aussi liés à des structures sociales. Je dis ça parce que j'ai eu l'occasion récemment de regarder aux États-Unis, à New York, où j'ai été il y a quelques semaines, les annonces de journaux homosexuels. On pourrait faire le même travail sur les petites annonces qui paraissent, par exemple, dans Libération et dans Le Nouvel Observateur. Eh bien, j'ai été frappé par le fait que ces petites annonces dépendaient d'un code absolument implacable. C'est-à-dire que ce sont toujours la demande fantasmatique est absolument et rigoureusement et grossièrement codée. Hein? Beau, musclé, affectueux, pouvant tout faire, rondelé, enfin peu importe, il y a une série d'adjectifs, et en face, il y a le code négatif, n'est-ce pas, qui est aussi implacablement stéréotypé. Je reviendrai peut-être d'ailleurs là-dessus en tant que problème de l'amalgame. No fads, no drugs, no sadomasochistes, no femmes. Bon, nous reviendrons peut-être là-dessus. Donc, sur ce fantasme d'écriture dirigé vers le poème ou le roman, par exemple, ou la pièce de théâtre, je voudrais faire une remarque. Général, c'est le rapport précisément du code et du fantasme. Je reviens un peu sur ce que j'ai amorcé avec les annonces des journaux gays de New York. C'est un problème très important. Je dirais qu'une société, sans doute, peut se définir par la rigidité de son code fantasmatique. Par exemple, précisément aux États-Unis, et sur le plan du monde sexuel, il y a un véritable catalogue codé d'images. Parce qu'il s'agit d'une société, vous le savez, c'est banal de le dire, où les images, les imagos, si vous voulez, les images, sont de véritables objets de consommation. On peut se demander d'ailleurs si finalement le mouvement du monde actuellement, l'extraordinaire boom des médias en particulier, ne fait pas que les images sont le principal objet de consommation. Enfin, il y a une assomption extraordinaire de l'image comme objet de consommation. Et dans le cas justement des journaux dont je parlais, le code est d'autant plus évident qu'il porte sur des désirs réputés non conformes, puisqu'il s'agit du monde de l'homosexualité. Je crois, en effet, que le fait majeur de l'homosexualité dans la société présente, c'est qu'elle est implacablement et incessamment récupérée par un code intérieur à elle-même. Et en un sens, le code à ce moment-là, le code qui est mobilisé par les homosexuels eux-mêmes, ce code est en quelque sorte supérieur et extensif à la loi. La loi repousse l'homosexualité dans la marge, mais dans cette marge même, l'homosexualité recrée un code qui fonctionne à l'intérieur d'elle-même comme une loi seconde. Et par conséquent, à ce moment-là, les contraintes du type, c'est-à-dire de la typologie, je vous en ai donné un exemple, l'emportent sur l'interdit, ou est une forme seconde et retorse de l'interdit recréé. Alors, est-ce que dans ce cas-là, il peut y avoir des fantasmes, je dirais, subtils, des fantasmes originaux? Eh bien, on peut se le demander. Peut-être ces fantasmes marginaux, originaux, peuvent exister, mais précisément selon une marginalité presque invisible. Ils ne peuvent à ce moment-là se faire entendre, sauf à passer précisément à l'ordre littéraire. Un homme, exemplaire sur ce point comme sur d'autres, a, je crois, bien vu et pratiqué ce problème, c'est Sade, qui semble avoir été très conscient et obstinément conscient du problème, car il a élaboré minutieusement des catalogues de fantasmes non codés, en particulier dans les 120 journées de Sodome, ou plutôt, parce que bien sûr on a une impression de code très fort, hein, ou plutôt ce qu'il a fait, parce qu'il ne pouvait pas faire plus en réalité, c'est qu'il a produit, proposé des variations du fantasme à l'intérieur d'une catégorie très codée. Par exemple, la nécrophilie, la scatophilie, le sadisme proprement dit. Alors, il y a des catégories, des genres extrêmement codés, il les accepte, mais à l'intérieur, il essaye de varier le fantasme. C'est précisément le propos des 120 journées de Sodome. Eh bien, peut-être qu'il y a une dialectique analogue, je dirais, de la langue parole, c'est-à-dire du code et de sa performance, il y a peut-être une dialectique analogue pour le fantasme d'écriture. C'est-à-dire que pour fonctionner, pour se mettre en train vers le réel, le fantasme du poème ou du roman doit rester à même une image grossière et codée qui est le poème, le roman. Est-ce qu'on peut commencer à écrire? Donc, à se mettre dans le vouloir écrire d'un objet, est-ce qu'on peut commencer à écrire sans d'abord fantasmer le code des objets scriptibles, à savoir le poème, le roman? Est-ce qu'on peut commencer à écrire sans se dire « je vais écrire un poème, je vais écrire un roman, je vais écrire un essai, je vais écrire une thèse ?» Et ce n'est qu'en luttant avec le réel, j'entends bien le réel d'écriture, hein, pas le réel du monde, c'est un autre problème. Ce n'est qu'en luttant avec le réel, c'est-à-dire avec la pratique d'écriture poétique ou romanesque, que le fantasme se perd comme fantasme et à ce moment-là atteint le subtil et l'inouï. Par exemple, Proust, qui me sert très souvent d'exemple, comme vous l'avez vu, Proust, et je m'expliquerai là-dessus une autre fois, Proust a fantasmé l'essai dans le Conte Sainte-Beuve, il a fantasmé le roman, et nous reviendrons plus tard à cette dichotomie, mais en fait ce qu'il a écrit, donc il a eu deux fantasmes pendant très longtemps, des vrais fantasmes puisqu'il n'arrivait pas à écrire. Ben, donc il était dans le fantasme, il n'était pas vraiment dans le réel d'écriture, mais quand il s'est mis à écrire, ce qu'il a produit, je dirais que c'est une tierce forme, ni roman, ni essai, ou les deux à la fois, à savoir la recherche, et il n'a pu commencer à écrire son œuvre précisément qu'en abandonnant la rigidité du code fantasmatique. Le fantasme, donc, tout ça c'est très banal, je crois, mais je vais le répéter tout de même, car je ne me fais pas gloire de ne pas être banal. Le fantasme, c'est comme une énergie, comme un moteur qui met en marche, mais ce qu'il produit ensuite réellement ne relève plus du code. Donc, le fantasme d'écriture, je dirais, sert de guide à l'écriture et il faut l'accepter. C'est un fantasme grossier qui sert de guide à l'écriture et qui permet le début de l'écrire, le passage du vouloir écrire à l'écrire. Et le fantasme, à ce moment-là, peut être figuré comme une sorte de guide initiatique. Il y a un pouvoir initiatique du fantasme, et à ce moment-là, eh bien, le fantasme, ça serait, pour celui qui écrit, ça serait comme Virgile pour Dante, ou Proust pour nous. Bon, eh bien, vous avez compris, ou d'ailleurs vous le savez déjà, ne serait-ce que parce que je l'ai dit et écrit, notamment au cours du colloque de Cerisy, il y a un an et demi, vous avez donc compris que le vouloir écrire dont je parle ici, c'est celui du roman, et que la forme fantasmée, ça n'est pas le poème ou la pièce de théâtre, c'est le roman. Et j'ajoute que j'ai entendu dire, qui est le trajet coutumier de la rumeur, que j'étais en train d'écrire un roman. Ce qui est rigoureusement faux, car si cela était, si j'étais déjà dans l'écrire un roman, je ne pourrais évidemment pas proposer un cours sur sa préparation, tout simplement parce que écrire a besoin de clandestinité. Et à ce sujet, j'indique, puisque nous sommes dans une communication amicale et personnelle, que j'ai vu qu'il était dit aussi dans certains journaux que j'étais en train d'écrire, ce sont toujours des nouvelles que j'apprends sur moi-même aussi, que j'étais en train d'écrire un scénario sur la vie de Proust pour un film avec André Téchineau. Il n'en est absolument rien. Et je dirais même que le fait que ça a été publié m'incline à penser que je ne l'écrirai jamais. Bien, donc, je n'écris pas un roman, j'en suis au fantasme de roman, mais évidemment, je suis disposé, ou je suis décidé à pousser le fantasme lui-même aussi loin que possible, à ce point alternatif qui se produira immanquablement, ou bien le désir tombera, c'est ce qui arrive peut-être de mieux au fantasme, ou bien le désir tombera, ou bien il rencontrera le réel d'écriture, et ce qui s'écrira ne sera pas le roman fantasmé, et probablement ça ne sera même pas un roman. Donc pour le moment, nous restons au plan du fantasme, ce qui modifie évidemment du tout au tout la façon, ou la méthode, si vous voulez, dont nous pouvons employer le mot roman. Je voudrais bien insister là-dessus, il n'y a pas d'équivoque de type méthodologique, n'est-ce pas ? Ce dont je parle, c'est d'un fantasme d'un roman fantasmé, et non pas du roman. En effet, ce que j'appelle roman, c'est pour le moment un objet fantasmatique qui ne veut pas consciemment, délibérément et obstinément être pris en charge par un métalangage scientifique, historique ou sociologique. Il y a donc une mise entre parenthèses, je dirais sauvage et aveugle, une sorte de suspension d'époquée du commentaire sur le roman en général. Il n'y aura pas de commentaire sur le roman en général, il n'y aura pas, ce que j'appellerais pour simplifier, de méta-roman. Par exemple, je ne parlerai pas, et donc je ne tiendrai pas compte de la sociologie historique du roman. C'est-à-dire, je vais donner une série de citations, du roman comme destin d'une civilisation, là, qui est en gros la thèse lukacienne, goldmanienne et girardienne. Que le roman, je cite encore, soit la transformation sur le plan littéraire de la vie quotidienne dans la société individualiste née de la production pour le marché, Cela ne m'intimidera pas. Que le roman ait eu pour mission, je cite encore, de mettre en opposition un univers de valeurs, amour, justice, liberté et un système social déterminé par des lois économiques, que le héros romanesque soit, je cite encore, une victime lucide et aveugle de l'antagonisme entre une histoire réelle et une éthique vraie, tout cela venant donc de la sociologie goldmanienne du roman, eh bien, tout cela, je ne le contesterai en rien, mais cela ne paralysera pas le fantasme. Je ne vais pas me référer à ces définitions du roman pour me sentir coupable si j'ai envie d'en écrire un. Je dirais que le fantasme, et c'est cela qu'il a de précieux pendant un certain temps, c'est qu'il fonctionne comme le reste irréductible de toutes les opérations de réduction méta-romanesque. Et c'est en cela qu'il m'intéresse, comme force d'irréductibilité. Et deuxièmement, je ne me laisserai pas non plus impressionner, du moins je l'espère, et du moins pour le moment, par la question de savoir s'il est possible aujourd'hui, c'est-à-dire historiquement et littérairement, d'écrire un roman. Certes, il s'en écrit des romans partout. Il faut reconnaître qu'ils ont un certain mal à se vendre, et d'ailleurs il y aurait là l'amorce d'une étude, alors franchement sociologique, une chose à surveiller. Maintenant, c'est qu'il semble qu'il y ait un mouvement de la société, des acheteurs, qui tente à substituer au roman, qui ne se vend pas très bien, le témoignage. Enfin, on a de plus en plus de livres de témoignages qui semblent se vendre pas mal, et les romans, eux, ne se vendent pas très bien, même si, en fait, la plupart des romans courants qu'on reçoit sont des témoignages. Et ceci, évidemment, peut être considéré comme grave dans un certain sens, parce que ce qui tombe du roman au témoignage, c'est évidemment, en gros, l'écriture. Mais d'autre part, aussi, on peut dire qu'aucun roman, bien qu'il s'en écrive aujourd'hui et qu'il s'en publie encore, aucun roman, grosso modo, depuis Proust, hein, je parle très grossièrement et j'accepte toutes les contestations sur ce point, aucun roman ne semble percer, c'est-à-dire accéder à la catégorie du grand roman, du monument romanesque. Je dirais que de la même façon, on peut dire à égalité qu'il y a eu bien évidemment beaucoup de tragédies après Racine, jusqu'au XIXe siècle, jusqu'au milieu du XIXe siècle, mais qu'en fait, il n'y a aussi plus eu de tragédies après Racine. On peut dire les deux choses à égalité. Donc, historiquement, la question « Le roman est-il aujourd'hui possible ?» est une question absolument légitime. Mais naïvement, c'est-à-dire avec la naïveté du fantasme, je ne me la poserai pas. Je ne me demanderai pas si le roman est historiquement possible aujourd'hui. Pour le moment, je ne vais pas penser le roman, c'est-à-dire mon roman, d'une façon tactique. Et donc, en somme, je vais essayer d'assumer, à titre provisoire et initiatique, une sorte de distinction entre deux attitudes. Premièrement, vouloir savoir comment s'est fait un roman en soi, selon une essence de connaissance, ce qui relèverait d'une science. Et deuxièmement, vouloir savoir comment s'est fait un roman pour le refaire, pour faire quelque chose du même ordre, ce qui relèverait d'une technique, une technique. Et donc, bizarrement, on se poserait ici, dans les semaines, ou en tout cas les années qui viennent, si je tiens le coup, on se poserait un problème technique, et non pas scientifique. Et donc, on régresserait de la science à la technique. Alors, la substitution du « comment c'est fait pour le refaire », ce qui sera notre point de vue ici, « comment c'est fait pour savoir ce que c'est en soi », c'est-à-dire la substitution de la préparation du roman, qui est l'intitulé du cours, à l'essence du roman, si vous voulez, est liée, bien entendu, cette substitution est liée à une option tout à fait contre-scientifique. En fait, le départ du fantasme, ce n'est pas le roman en général comme genre. Le roman, par exemple, dont s'est occupé Goldman, n'est-ce pas ? Mais le départ du fantasme, c'est donc pas le roman en général, c'est en fait un ou deux romans sur des milliers. C'est ça qui donne le départ du fantasme. Pour moi, je l'ai écrit, par exemple, deux romans m'ont servi de moteur au fantasme de roman. Le premier, c'est La recherche du temps perdu. Le second, je l'ai dit aussi, c'est Guerre et paix de Tolstoï. Mais, en fait, dès que j'essaye d'en lire d'autres, parce qu'à un moment, je me suis, disons, leurré moi-même, j'ai pas bien vu les choses avec cette clarté très subjective, et quand j'ai pensé à proposer un cours sur la préparation du roman, je me suis dit, je vais lire beaucoup de romans pour amener aux auditeurs un matériau un peu riche, n'est-ce pas, le classer. Et donc, j'ai essayé de lire d'autres romans que La Recherche ou que Guerre et paix. Eh bien, ça n'a pas bien marché. Dès que j'essaye de lire d'autres romans, par exemple Jean Santeuil ou Anna Karénine, ces romans, pourtant d'auteurs absolument aimés et chéris, me sont tombés des mains. En somme, le fantasme saisit le roman, je dirais le roman pas comme les autres, le roman géant, mais aussi peut-être le roman déchet. Comme si l'essence non scientifique du roman, c'est évidemment une bizarre notion, n'est-ce pas, qu'une essence non scientifique, peut-être une sorte d'essence existentielle, ce qui est encore plus contradictoire, ce qui correspondrait au cri qu'on aurait devant tel roman, mais pas les autres, le cri du « oui, c'est ça, oui, c'est bien ça, c'est tout à fait ça ». Bon, je vais en reparler d'ailleurs plus tard. Donc, comme si le roman géant, ou l'essence non scientifique du roman, était cherchée, au fond, dans le déni du genre roman. Car c'est bien le cas pour La Recherche du temps perdu, qui est d'une certaine manière un déni porté, ou un défi porté au roman, et c'est aussi le cas pour Guerre et paix, qui certes est un roman, mais qui aussi, d'une façon beaucoup plus ambiguë, peut être considéré, et on l'a écrit, et je crois que c'est Tolstoï lui-même qui l'a écrit, comme un poème historique. Donc, La Recherche que je propose n'est pas du tout scientifique, car elle ne va considérer en rien la moyenne des romans. Elle ne va pas s'occuper de la moyenne des romans, en notant d'ailleurs que si on cherche une science nouvelle, on peut s'amuser à cela, une scienza nuova, ça ne pourrait pas être celle des genres, des moyennes et des majorités, mais s'il y a une science nouvelle, ça pourra être une science des différences. Ce qui, pour le moment, dans la perspective d'une épistémologie aristotélicienne, est évidemment une contradiction dans les termes. Deuxième remarque, au niveau du fantasme, il est, me semble-t-il, pour ainsi dire, physiquement impossible de concevoir, c'est-à-dire de désirer, une œuvre médiocre, c'est-à-dire une œuvre participant à une moyenne. Médiocre, moyenne, c'est la même étymologie. Par exemple, les romans que je reçois, ils ne soient pas tous, mais j'en reçois un certain nombre en service de presse, et je ne les lis pas, à vrai dire, tous, loin de là, et ceci est un euphémisme, mais je les regarde. Je les regarde et je suis frappé par ceci, qu'au fond, la plupart du temps, je n'ai rien contre ces romans, contre tel ou tel roman que je reçois. Je n'ai rien contre, je suis sans doute prêt à reconnaître le talent et beaucoup d'autres qualités, mais j'ai tout de même une question qui mine mon accueil, c'est que je me dis, pourquoi cette histoire-là parmi d'autres ? J'ai aussi cette réaction souvent devant des films. pourquoi cette histoire plutôt qu'une autre? Et je dirais que pour moi, le grand critère pour reconnaître une œuvre, mais ça n'est que reculer la difficulté d'explication, donc le grand critère pour reconnaître une œuvre, c'est-à-dire tout simplement et matériellement pour la lire, hein, c'est ça que ça veut dire reconnaître une œuvre, c'est la lire vraiment, eh bien, ça serait qu'elle dégage un sentiment de nécessité. Mystérieux, faudrait chercher. Mais devant une œuvre qui sonne vraiment comme une œuvre, on ne se dit plus pourquoi cette histoire plutôt qu'une autre. Devant Guerre et Paix, je ne me dis pas mais pourquoi cette histoire plutôt qu'une autre. Devant La Recherche non plus. C'est-à-dire peut-être que la nécessité, c'est-à-dire que nous sommes libérés par certaines œuvres du sentiment du scepticisme. Pourquoi, pourquoi pas? Oui, pourquoi ceci, mais pourquoi pas le contraire? Et la nécessité, on peut creuser un peu plus, si vous voulez, la nécessité, ça serait ce qui fait proliférer le sens. La nécessité, ça n'est pas qu'une œuvre ait un sens, c'est-à-dire un signifié. Ça, ça n'a aucun intérêt, et souvent ça fait de mauvaises œuvres. Mais qu'il y ait du sens, c'est-à-dire qu'il y ait une prolifération du sens, qu'il y ait une énergie polysémique. Et les œuvres qui n'ont pas cette énergie polysémique, pour moi en tout cas, tombent. C'est-à-dire que l'après de la lecture soit différent de son avant. Et, chose curieuse, les remplis, vous savez, c'est les petits textes qui sont au dos des romans, écrits en général par l'éditeur, les remplis, en racontant souvent emphatiquement, et bien sûr c'est compréhensible, l'histoire, ont le résultat inverse pour moi, c'est-à-dire qu'ils engomment la nécessité éventuelle. Un rempli ne me donne jamais envie de lire le livre, parce que, au fond, la règle d'or, la règle sage, c'est de ne jamais raconter l'histoire. Il ne faut jamais résumer une histoire. L'histoire, c'est seulement à écrire, c'est pas à résumer. Donc, le fantasme de roman dont je parle part de quelques romans. Et en cela, ce fantasme prend appui, prend départ sur quelque chose qui est comme le premier plaisir de lecture. Et on sait, depuis Freud, par considération du plaisir érotique, la force du premier plaisir qui traverse toute la vie. Cependant, là j'aborde une partie un peu difficile, primée tout au moins sur le plan terminologique. Je sens que je vais me faire accuser, mais je suis obligé tout de même de traverser cette zone fragile d'accusation. Fragile, c'est pas les accusations, c'est moi qui me sens fragile. Cependant, le fantasme et son ardeur de désir est évidemment appelé à s'élargir, à se dépasser, à se sublimer. Et il y a, pour le fantasme de roman d'écriture, comme pour les autres fantasmes finalement, il y a une dialectique du désir et de l'amour. C'est ça le mot difficile à employer, mais il n'y en a pas d'autre. Désir et de l'amour, ou, pour gommer un peu la banalité du mot amour, on va peut-être employer des mots grecs, hein, une dialectique de l'éros et de l'agapé. Et d'autant plus que la dialectique de l'éros et de l'agapé est dans ces termes-là, a été mobilisée, mise en scène, quoi que je l'ai dit à d'autres cours, par des mystiques, n'est-ce pas, et notamment par certains fondateurs de la théologie dite négative, comme Denis l'Aréopagite. Donc, les blessures du désir peuvent être recueillies et comme transcendées par l'idée de faire un roman, c'est-à-dire de dépasser les contingences de l'échec par une grande tâche, par un désir général dont l'objet est le monde entier. Le roman, à ce moment-là, fantasmé, fonctionnerait comme une sorte de grand recours personnel, articulé, si vous voulez, sur le sentiment qu'on peut avoir au milieu du chemin de la vie, qu'on ne se sent bien nulle part, et que l'écriture à ce moment-là peut être pour certains d'entre nous notre seule patrie. Le roman, à ce moment-là, en tant que affaire à Gendoul, apparaît comme ce qu'on appelait dans la théologie le souverain bien, dans saint Augustin, dans Dante, dans saint Thomas, et puis maintenant dans certains écrits psychanalytiques, le souverain bien, il sommo bene, chez Dante. Donc, en un sens, le roman, et c'est là que les expressions sont vraiment un peu rétro, et je n'en trouve pas d'autres, le roman peut être fantasmé comme acte d'amour. C'est une expression exécrable qui m'exposera, qui pourrait m'exposer à l'accusation de sensiblerie et de banalité, mais je n'en trouve pas d'autre. Le roman, je le vois, je le sens comme une sorte d'acte d'amour, et puis après tout, il faut assumer les limites de la langue. Donc, il ne s'agit plus, dans ce cas-là, d'amour amoureux, mais d'amour agapé, même s'il y a une rémanence constante de l'éros. On pourrait imaginer d'ailleurs une distinction. L'amour amoureux consisterait en écriture, en littérature, à parler de soi en tant qu'on est amoureux. Et ça serait, disons, la définition de tout le lyrisme. La poésie lyrique, c'est une poésie qui parle de celui qui parle en tant qu'il est amoureux. Et donc c'est un discours très solipsiste qui annule d'ailleurs l'objet aimé, même s'il a l'air d'en vanter les charmes. La poésie lyrique est une poésie fondamentalement narcissique, participant au narcissisme du sujet amoureux. Mais en face, on pourrait dire que l'amour agapé, c'est-à-dire celui du roman, dans mon idée, consiste à parler non pas de soi en tant qu'on aime, mais des autres qu'on aime, de ceux qu'on aime. Dire ceux qu'on aime, aimer plus écrire, cela veut dire rendre justice à ceux qu'on a connus et aimés, c'est-à-dire témoigner pour eux, au sens religieux, c'est-à-dire virtuellement les immortaliser. Peindre ceux qu'on aime, telle serait une fonction du roman, de mon roman. Et heureusement, j'ai trouvé là un ami m'a signalé une citation qui renforce ce point de vue, qui vient de Sade, dans la préface au crime de l'amour, les œuvres complètes du livre précieux, tome 9, 10, page 6, il y a un texte qui s'appelle « Idées au pluriel sur les romans ». Et ça décrit « L'homme est sujet à deux faiblesses qui tiennent à son existence, qui la caractérisent. Partout il faut qu'il prie, partout il faut qu'il aime. Et voilà la base de tous les romans. » Il en a fait pour prendre les êtres qu'il implorait, donc c'est prier pas Dieu, mais les êtres qu'on implore. Il en a fait pour peindre les êtres qu'il implorait. Il en a fait pour célébrer ceux qu'il aimait. Voilà une définition du roman. Célébrer ceux qu'on aime. Et si on pense aux deux auteurs auxquels je me réfère, eh bien, effectivement, dans la recherche de Proust, on pourrait dire en un sens que toute la recherche est faite pour célébrer deux êtres aimés qui n'en sont qu'un, qui ne sont pas du tout, dont pas du tout Albertine ou Odette, mais bien sûr la mère et ou la grand-mère, qui sont les seuls objets d'amour de la recherche. Et dans Tolstoï, dans Guerre et Paix, Tolstoï a aussi peint ceux qu'il aimait. Sa mère, la princesse Marie, son grand-père, le vieux prince Bolkonski. Alors, ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, les mettre en position centrale, ceux qu'on aime. Il y a l'exemple de Proust. En fait, ce sont des places d'amour qui aimantent. Et le roman, par rapport à ceux qu'on aime, c'est une structure de médiation. Deuxième remarque, le roman aime le monde. J'ai dit le roman, c'est un acte d'amour qui transcende, qui sublime. Le roman aime le monde parce qu'il brasse le monde et, je jouerai sur les mots, parce qu'il l'embrasse. Il y a une générosité du roman. Une impression constante de générosité qui n'est pas sentimentale, parce qu'elle est médiatisée par le roman. Et je pense ici à une distinction introduite par des savants dans la notion d'amour mystique. On dit que l'amour, il y a deux sortes d'amour mystique. Premièrement, soit l'amour pour un autre avec un grand A que soi et à l'union duquel on aspire. Ça serait l'amour mystique des monothéistes, des religions, des mystiques monothéistes, christianisme, islamisme, judaïsme, il y a des mystiques aussi dans le judaïsme, et je dirais qu'en prolongeant sur le plan de la littérature, c'est ce qui correspondrait à la poésie lyrique et au discours amoureux. Mais il y a aussi un autre amour mystique, qu'on dit être un amour foncier, un amour obscur, un amour inéluctable, un amour ontologique, qui serait celui des mystiques de l'Inde, et j'ajoute, du roman. Le roman apparaîtrait à ce moment-là comme une pratique d'écriture, mais comme une pratique pour lutter contre la sécheresse de cœur, ce que j'ai appelé l'acédie. Alors, cela peut paraître abstrait, et je vais me demander qu'est-ce que cela peut être au plan du discours, c'est-à-dire du texte romanesque. Eh bien, je l'ai déjà dit, le roman, c'est une opération de médiatisation. La sentimentalité, qui n'est pas refoulée dans l'expression que j'ai dû employer, acte d'amour, mais dans le roman lui-même, la sentimentalité est médiatisée, c'est-à-dire qu'elle est induite, non déclaré, non proféré. Et je pense ici à ce mot de Freud, je ne sais plus où, comme toujours, disant qu'on ne peut jamais voir la pulsion de mort, sinon colorée, teintée, colorée par la libido. Eh bien, je dirais de même, dans le roman, ou plutôt la pulsion d'amour, colore le roman. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est une couleur. Elle le colore. D'autre part, il faut situer le roman, toujours ce que j'appelle roman, c'est-à-dire mon roman, par rapport aux grandes catégories logiques de l'énonciation. Et je pense, il y avait longtemps que je ne vous en avais pas proposé, peut-être depuis l'année dernière, je pense à une anecdote zen. Un moine, une sommité, un gourou, je ne sais pas comment on l'appelle, Zen, qui s'appelait Chu Chan, vivait au Xe siècle, avait donc un cercle de disciples devant lui, et tout d'un coup, il s'est mis à brandir son bâton. Et il a dit, « N'appelez pas cela un Chupi, car alors vous faites une affirmation. Ne niez pas que ce soit un Chupi, car alors vous faites une négation. » En dehors de l'affirmation et de la négation, parler, parler. Comme quoi nous comprenons que Tchoupi veut dire bâton, pour moi. Ou encore ceci, pour en venir au grec, d'Alcidamas, un sophiste, il disait qu'il y a quatre formes de discours. Quatre formes de discours. L'affirmation, phasis. La négation, apophasis. L'interrogation, érothésis, et la prosagoresis, difficile à traduire, qui est la déclaration, l'appellation, le salut à quelqu'un. Catégorie très intéressante, justement. Eh bien, on peut peut-être dire que le roman ne serait ni affirmation, ni négation, ni interrogation, et cependant, il parle beaucoup, dans La Recherche et dans Guerre et Paix, il parle beaucoup, et deuxièmement, il s'adresse, il interpelle, prosagorosis. C'est-à-dire, et d'ailleurs c'est ce que font à mon égard La Recherche et Guerre et Paix, ce sont des choses qui m'interpellent, ce sont des discours qui m'interpellent. Et je dirais qu'en rapport avec notre idée du neutre, cours de l'année dernière, le roman, ce serait au fond pour moi, mon roman, le roman à venir, ce serait le discours sans arrogance, qui ne m'intimide pas. Jamais un roman ne m'intimide. Jamais un roman ne produit sur moi une intimidation de langage. C'est un discours qui ne fait pas pression sur moi et donc qui me donne l'envie d'accéder moi-même à une pratique de discours qui ne fasse pas pression sur autrui. Car au fond, c'est cela que je cherche, un discours qui ne fasse pas pression sur autrui. C'était là, vous le rappelez, l'une des préoccupations du cours sur le neutre et peut-être à ce moment-là que le roman, c'est l'écriture du neutre. Cependant, pour avancer un peu dans le fantasme, c'est-à-dire pour entrevoir d'en sortir vers le réel, je devrais essayer de voir avec lucidité quelles sont mes propres dispositions, disons comme on dit mes facilités personnelles à faire un roman. Il faut que j'examine, d'après ce que je sais de moi, de ma pratique d'écriture, si je peux faire un roman, après tout, si j'en suis capable. Ma seule force, pour le moment, c'est mon désir de faire un roman, c'est l'obstination de ce désir. Mais, même si j'ai, disons, souvent flirté avec le romanesque n'est pas le roman, et c'est précisément ce seuil que je veux franchir. Mais au moins, il me semble que je peux voir tout de suite en moi une certaine faiblesse constitutive, une certaine impuissance à faire un roman, de la même façon qu'un sujet à qui sa constitution, au sens littéral du mot, ne permet pas de faire du sport, ou la petitesse de sa main ne permet pas de faire du piano. Encore que ce ne soit pas un véritable obstacle. Donc, il y a peut-être en moi une faiblesse d'un certain organe qui ne me permet pas de faire un roman, ou le roman fantasmé, ou qui, disons, va limiter les possibilités d'application du fantasme, de sortie du fantasme vers un réel d'écriture. Eh bien oui, je pense, tout ça est peut-être très imaginaire, hein, je pense que j'ai en moi une faiblesse constitutive qui ne me permet pas de faire n'importe quel roman, ou en tout cas de faire le roman qui serait en accord avec les grands modèles que j'ai indiqués, et cet organe faible en moi, je vais dire lequel, ce que c'est la mémoire, c'est la faculté de se souvenir. À tort ou à raison, je veux dire, sous réserve d'examen et de revirement éventuel, il me semble que les romans que j'ai cités, les romans que j'aime, les romans fantasmés, sont des romans de la mémoire. Ils sont faits avec des matériaux, des souvenirs rappelés de l'enfance, rappelés de la vie du sujet qui écrit. Proust en a fait la théorie de son œuvre, d'ailleurs, tout cela à discuter, n'est-ce pas, on y reviendra. Et disons que la recherche, n'est-ce pas, peut être définie grossièrement, disons au niveau des manuels de littérature, en tout cas pour commencer, comme un roman anamnésique, c'est-à-dire qui essaye de remonter par la mémoire vers le passé. énergie anamnésique qui culmine, bien entendu, dans l'épisode de Combray. Tolstoï, c'est moins connu, mais c'est tout aussi aigu. Dans Guerre et Paix, il y a une anamnèse, beaucoup plus voilée, naturellement, c'est un roman plus classique d'énonciation, il y a une anamnèse personnelle de Tolstoï, incessante. C'est un tissu de souvenirs, et il ne faut pas oublier, parce qu'on n'en parle jamais, c'est un homme qui a pratiqué la biographie anamnésique, les mémoires, les souvenirs, n'est-ce pas ? Il y a dans le volume de la Pléiade des souvenirs d'enfance, justement, et d'adolescence de Tolstoï. Alors, je ne sais pas si ce que je dis là, ça peut se discuter, que ces deux romans soient des romans de la mémoire, mais moi, je les vis comme tels. Et, quoi qu'il en soit, j'ai la conviction que je n'ai, personnellement, je n'ai pas de mémoire et que cela m'interdit le roman anamnésique. Je voudrais noter que le trouble de la mémoire que je ressens en moi peut être très divers. Enfin, il n'y a pas de mémoire pure, simple, littérale. Toute mémoire a déjà un sens, et déjà sens. Et en fait, ce n'est pas la mémoire qui peut être créatrice de romans, c'est bien entendu sa déformation. De même que Bachelard disait très justement que l'imagination, c'est ce qui défait les images. Ce n'est pas du tout ce qui fait les images, ce qui crée des images, c'est ce qui en défait. Eh bien, le roman vient d'une déformation.